Espace femme.
En direct sur le studio Kalangui. Bonsoir à tous. Vous êtes à Espace Femmes, un rendez-vous réservé aux thématiques femmes. Nous sommes mardi. Messieurs, dames, bienvenue. Moi, c'est Diallo Mariama Kenda. Alors, ce soir, nous parlerons des services de santé en cette période de pandémie du Covid-19. Quelle stratégie pour une meilleure fréquentation et prise en charge des femmes? En effet, depuis le 19 mars 2020, la pandémie du nouveau coronavirus sévit au Niger. À la date du 14 mai 2020, les autorités sanitaires ont recensé 860 personnes testées positives, dont 49 décès et 658 sorties guéries. Pour éviter la propagation de la maladie, le gouvernement nigérien a pris des mesures préventives drastiques le 20 mars 2020 avec la fermeture des frontières, des écoles, la distanciation sociale, d'où l'interdiction de regroupement, etc. Et pour le respect de ces mesures édictées par l'autorité, les services publics et privés, dont les services de santé, sont contraints de réduire l'effectif de leur personnel. Il faut noter que la peur et l'inquiétude due à cette maladie poussent la population à s'abstenir de fréquenter les centres de santé, surtout au niveau des régions où la pandémie gagne plus de terrain. Ces nouvelles dispositions de travail ont-elles des conséquences sur la fréquentation des centres de santé par les femmes? Les heures de travail suffisent-elles pour satisfaire les patientes? La crainte d'être infectée peut-elle empêcher aux femmes d'aller se soigner? Voici de quoi il s'agira tout au long de cet échange entre nos invités. Madame Sourgia Mariama, directrice de l'Organisation des soins au ministère de la Santé, on l'appelle la DOS. Amina Hashimou, présidente du réseau des journalistes pour la santé. Et enfin, le seul homme parmi nous, Dr Abou Abdourahman, médecin chef du district sanitaire de l'arrondissement Niamey 3. Alors tout d'abord, nous tenterons de mettre en exergue dans la première partie les craintes et les raisons éventuelles qui font que les femmes fréquentent moins les centres de santé intégrés. Dans la deuxième partie, nous verrons quelle est la stratégie mise en place par les services sanitaires pour continuer à travailler. Et enfin, nos invités proposeront des solutions pour encourager les femmes à continuer leurs consultations. Voilà, c'est parti, le débat est lancé. Messieurs, dames, avant de lancer ce débat, écoutons tout de suite les témoignages de femmes que nos correspondantes en région ont recueillis.
Maintenant, les centres de santé sont devenus des endroits dont nous avons peur de fréquenter. Il y a certains contrôles qu'on nous exige et cela nous fait peur. On a peur que cela nous rende malade. C'est pour cela qu'on va vers les tabliers pour acheter les produits, mais seulement quand la maladie n'est pas grave. C'est pour ces raisons que les populations ont peur d'aller se soigner parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver là-bas.
Nous sommes venus pour l'apaiser des enfants. Ça fait plus de 3 mois que nous ne sommes pas venus à cause de cette maladie. C'est ça qui a fait que nous sommes restés à la maison. Maintenant qu'on a eu l'opportunité, nous sommes là. C'est le problème de cette COVID-19. À présent que ça va, on a dit de revenir pour l'apaiser des enfants. Nous implorons le bon Dieu pour qu'il nous protège de cette maladie.
J'avais mon rendez-vous depuis mercredi. Ce qui m'a empêché d'y aller, c'est l'arrivée de cette maladie dont on parle tout le temps. Cela m'a effrayée et j'ai préféré rester chez moi. Ma consultation prénatale, c'était depuis mercredi, mais je ne vais pas y aller parce que j'ai peur. Avec cette maladie où tu fuis ton prochain.
Nous cherchons juste un soulagement, que le pouvoir ait pitié de nous. À cause de cette maladie, on ne peut même pas sortir pour la pesée des enfants et savoir comment ils vont. Je suis venue pour une consultation prénatale, mais ils n'acceptent que 20 personnes. C'est à cause de la maladie qu'ils ont diminué le nombre de personnes. Pendant plusieurs mois, nous n'avons pas eu de consultation, mais le vendredi passé, ils nous ont demandé de revenir le lundi. Nous avons pu venir, mais ils ont arrêté à partir de 20 personnes.
Vous avez donc tous écouté, entendu ces témoignages. Amina Hashimou, donc présidente du réseau des journalistes pour la santé. Est-ce que ces témoignages vous parlent? Je veux dire, avez-vous eu affaire à ces constats sur le terrain?
Et merci de m'avoir donné la parole et merci d'organiser ce débat tant important parce que vraiment c'est une situation qui perdure et ça s'aggrave de plus en plus.
Merci à vous.
Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une maladie qui est là. Tout le monde est affolé. On ne connaît pas la maladie. Et automatiquement, les responsables de la santé, oui, ils ont mis en place un comité. Un comité de sensibilisation pour pouvoir freiner la propagation de cette maladie. C'est une très bonne chose. Et malheureusement, ils n'ont pas pensé aux gens qui sont là. Je ne parle pas seulement des femmes d'abord, mais de tout le monde, les malades qui ont des maladies, que chaque matin, ils doivent aller se soigner ou bien se faire consulter par un médecin ou une infirmière. Et eux, leur problème, c'est la nouvelle maladie qu'ils ne connaissent pas.
Alors, vous êtes en train de nous dire, Aminata Hachemou, que les autorités sanitaires n'ont pas pensé à une meilleure sensibilisation, communication sur les dispositions qui ont été prises.
Quand ils ont mis en place le comité communication, normalement, c'est le comité qui doit faire son plan de communication. Avant la maladie d'abord, avant que la maladie ne soit là, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser la population? Il y a deux choses à faire. Un, sensibiliser la population pour que les gens ne soient pas contaminés. Et les malades qui sont là, qui sont toujours là, qui attendent d'être soignés ou consultés chaque matin parce qu'il y a des maladies curatives. Alors, donc, comment faire pour sécuriser ces gens-là, hein, et les informer, leur expliquer que même si vous partez, vous ne serez pas contaminés. La population, elle est mal informée.
Que nous avons juste à côté de vous, Madame Souria Mariama, donc la directrice de l'organisation des soins au ministère de la Santé publique, la DOS. Vous venez d'entendre donc ce que vient de dire Aminata Hachemou. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation, communication sur les dispositions? Et là, on est allé un peu, on a anticipé sur le débat parce qu'après, c'était dans la deuxième partie, mais puisque la présidente du réseau des journalistes pour la santé en parle, donc je suis obligée de vous retourner la question. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation sur les dispositions?
Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour expliquer davantage et donner le maximum d'informations donc concernant la prévention de cette maladie. Je ne dirais pas que ce que ma collègue vient de dire n'est pas vrai, mais ce qui est sûr, c'est que le ministère de la Santé a mis en place, au-delà du ministère de la Santé, c'est un comité interministériel qui gère le COVID. Donc tous les ministères sont représentés au sein de ce comité et c'est la primature qui assure donc la coordination, voilà. Donc, il faut dire que le ministère de la Santé a mis en place des commissions. Et même ces commissions sont également composées de... En tout cas, ce sont des comités multisectoriels. Concernant la communication, je sais que un plan de communication a été bel et bien élaboré. Et les activités de sensibilisation de masse ont démarré bien avant que le Niger n'enregistre le premier cas de coronavirus. Maintenant, étant donné que c'est une nouvelle maladie, vous le savez, les réseaux sociaux ont contribué beaucoup dans la désinformation. Les vraies informations, le ministère de la Santé tente de les véhiculer, mais nous avons également par un autre canal des informations de toutes sortes qui passent.
Vous êtes entendu dire que le ministère s'est confronté à des difficultés vis-à-vis de cette communication au niveau de la maladie, de la pandémie.
Oui, des réseaux sociaux aussi, bien que vous avez bien vu au titre des mesures qui ont été prises. Il y avait une mesure qui interdisait donc le fait de véhiculer donc des mauvaises informations donc concernant la maladie. Madame fait partie d'une association qui devrait apporter son appui au ministère de la Santé. Pense que dans de tels cas, il ne faut pas rester dans son coin pour dire que je n'ai pas été associée. Mais il faut offrir ses services et montrer, surtout si on a l'opportunité de joindre le maximum et de toucher le maximum de personnes. Donc ce sont des opportunités comme ça qu'il faut saisir pour faire connaître l'association et également pour apporter son appui dans la lutte.
Alors avant de donner la parole, parce qu'elle est obligée de vous répondre, elle est là. Avant de lui donner la parole, je parle de Amina Hachemou, présidente du réseau des journalistes pour la santé. Je me tourne vers Dr Abou Abdoulkaman. Alors, ce constat, est-ce que vous, au niveau de votre district, vous avez eu en tout cas à faire ce constat qu'il y a eu baisse de fréquentation par les femmes?
Merci, madame. Je dirais effectivement que cette crise mondiale donc sanitaire n'a pas été sans conséquence par rapport au vécu des populations en matière de recherche donc de soins. Donc, c'est dans cet effet-là, en fait, effectivement, on avait déjà anticipé les réactions et surtout les impacts des mesures restrictives, donc en matière de regroupement, en matière d'assemblée, en matière de recherche de soins, en matière de protection individuelle.
Mmh.
Et le ministère, à travers donc ces différents démembrements, donc nous au niveau opérationnel qui gérons et coordonnons les activités donc des soins, donc avons déjà réfléchi à comment offrir nos services en même temps prévenir la contamination des usagers des services de santé. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons déjà pensé à non seulement démultiplier donc, les postes de soins ou donc, d'offres de services, c'est-à-dire que si vous avez un seul poste de soins curatifs ou de CPN, vous le multipliez en deux, en trois, afin qu'on évite en fait, donc, de regrouper le maximum de personnes en un seul endroit et aussi donc de faire durer l'attente.
Là, suis obligée de rappeler que vous êtes en train de parler. Vous pouvez continuer, mais juste je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent que vous êtes en train de répondre à cette autre question de la deuxième partie de ce débat et qui nous demande quels sont les moyens mis pour revenir à la question de la fréquentation des services de santé.
Effectivement, cette pandémie a créé cette peur en fait de fréquenter donc les services de santé. Pourquoi? Parce que quelque part il y a des news, des informations en fait qui venaient de toutes parts. Et ce qui a été vraiment une grosse difficulté en fait qu'a vécu le ministère de la Santé afin de pouvoir gérer ces informations-là qui viennent de n'importe quel horizon et sans pour autant qu'il y ait des sources qui sont fiables.
Alors vous rejoignez Madame Sourghia Mariama qui vient de nous dire qu'effectivement le ministère a été confronté à des problèmes de communication, de fausses informations par rapport à cette pandémie. Aminata Hashimou, donc vous vouliez rebondir, je dirais, sur ce que a dit Madame Sourghia. Au fait, bon, j'allais poser la question. Donc ça veut dire que c'est vu de justesse. Qu'est-ce que le réseau a fait au cours ou lors de cette pandémie sur le terrain?
Et Madame vient de dire que le réseau est resté dans son coin et peut-être pour dire que on n'est pas associé.
Mm-hmm.
Le réseau ne peut pas dire qu'il n'est pas associé parce que dans toutes les radios, télévisions, presse écrite, on a un point focal. Vous voyez comment les journalistes se battent. Vous voyez comment les journalistes se battent.
Parce qu'on a dit réseau pour les journalistes pour la santé.
Oui. Et je vous dis que dans chaque média, on a un point focal. C'est pas, si Amine n'a pas participé, ses collègues ont participé.
On en parlait.
Ils sont en train même de parler de cela, matin et soir. Et dites Dieu merci à nos collègues journalistes. La désinformation, c'est grâce aux journalistes que certaines informations ont été démenties.
Les journalistes en collaboration du ministère de la Santé.
Du ministère de la Santé. C'est pour vous dire qu'ils sont en relation permanente avec le chargé de communication du ministère de la Santé qui fait tout.
Et ce comité interministériel du COVID-19 aussi.
Lui, c'est notre point focal au niveau du ministère. C'est l'attaché de presse qui nous donne toutes les informations que lui, il a reçues de l'autre côté. Et nous, on divulgue.
Le réseau n'est pas resté inactif. Le réseau n'est pas resté inactif.
Il est
là. Dans son coin. Je vais utiliser le terme qu'a utilisé la danse.
Oui, son coin. On n'est pas resté inactif. On ne restera jamais inactif. Qu'on le veuille ou pas.
C'est ce qu'on attend de vous.
Malheureusement, on doit responsabiliser les journalistes. Je ne dis pas le réseau, les journalistes. Les comités là qu'on avait mis en place, qu'on mette en place un comité de spécialistes de la communication. Parce que
Aminata Hashimou, vous êtes carrément à la dernière partie de ce débat, donc réservez cette réponse.
D'accord, il n'y a pas de problème, mais sinon on a fait, on continue à faire.
Voilà.
C'est surtout ça. On n'est pas resté dans notre coin.
C'est bien noté. Alors, pour éviter les attroupements, les agents aussi de santé expliquent comment se fait la régulation dans les services pour la bonne marche. À présent, je vous propose d'écouter la responsable de la maternité Yantala de Niamey, docteur Yakuba Dambouzois, gynécologue obstétricienne et le médecin-chef de la commune de Tawa, docteur Moudawa Slihou, des propos recueillis par Rekia Arimi et Abdoulaye Aoussouk.
Depuis l'avènement du Covid-19, il y a des services et la fréquentation a diminué, notamment la consultation prénatale. Donc nous avons la consultation gynéco, on reçoit de moins en moins, et aussi la planification familiale. En ce qui concerne la salle d'accouchement, les activités n'ont pas changé et la vaccination aussi. Pour les attirer, on fait la sensibilisation, on respecte les mesures de barrière. Donc, on explique aux femmes qu'elles doivent porter les bavettes. Déjà, on a un dispositif de lavage des mains à l'entrée et aussi dans les couloirs. Donc, on explique aux femmes aussi de mettre la distance de 1 mètre donc, sur les bancs. S'il y a un surplus, donc, les autres femmes restent dans la cour. Au fur et à mesure qu'on décante, donc, on fait rentrer pour ne pas pouvoir les serrer sur les bancs. Par exemple, pour la consultation prénatale, il y a des femmes parce qu'il y a la psychose, même quand le rendez-vous est là, elles ne viennent pas. Donc on a un système de relais, et on a des femmes relais, on peut faire appel aux femmes relais pour pouvoir leur expliquer qu'elles peuvent venir, mais en respectant les mesures. On fait des séances de sensibilisation, c'est pour les femmes qui sont là, donc en retour, quand elles retournent au niveau de la communauté, donc elles font passer le message, c'est de leur expliquer qu'elles peuvent venir dans les centres, mais quand même en respectant les mesures de barrière. Donc, on explique qu'elles doivent venir faire leur consultation prénatale. Pour celles qui prennent la contraception, elles peuvent venir prendre leur contraception. Il n'y a pas de problème. Par exemple, la semaine passée, on a eu une ONG qui nous a amené des dons de bavettes. Donc, on leur donne les bavettes et on leur explique comment il faut faire pour se préserver de la maladie.
Comment est-ce que vous procédez vos consultations?
Pour la consultation gynécologique, par exemple, donc comme vous voyez, on met la distance de 1 mètre entre le prestataire et puis le client. Et il y a le port de bavette qui est obligatoire. Et il y a le lavage des mains avec le dispositif qui est déjà à l'extérieur, à l'entrée. Et aussi, il y a le gel hydroalcoolique aussi qu'on donne aux femmes.
Ces derniers temps, vraiment, les consultations ont diminué. Du reste, vraiment, les gens ne viennent pas comme avant. Aussi, c'est lié au fait qu'on a dit d'éviter les attroupements de plus de 50 personnes. Donc, dès la porte, on essaie de réguler et prendre par jour une dizaine de consultations. Donc, en dehors des urgences, donc pour éviter l'attroupement, vraiment, on a essayé de faire cette réglementation. Et aussi, certains malades se disent que dès qu'il y a des symptômes comme toux ou rhume, les gens pensent que tu as cette maladie qu'on est en train de parler, cette pandémie de COVID-19. Et du coup, ils restent à la maison et ne viennent plus.
Par rapport à ça, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ces personnes?
Non, c'est de dire aux gens, dès qu'ils sont malades, ils peuvent faire comme avant et venir. Le COVID-19, c'est une maladie comme les autres. Qui, si elle est diagnostiquée à temps, on traite, il y a quand même des approches de traitement, même si on dit que ce n'est pas totalement un médicament qui guérit, mais quand même ça donne des bons résultats et ça mène à la négativité. Quand on fait l'examen de contrôle, la personne est négative. Donc nous disons que la pandémie là peut être jugulée aussi et donc les gens ne se font pas d'illusions. C'est comme les autres maladies, la méningite, la rougeole, le choléra et que sais-je encore. Donc vraiment, les gens n'ont qu'à revenir pour consulter.
Alors, docteur Abou Abdourahman, donc médecin-chef du district sanitaire Niamey-Tawa, est-ce qu'aujourd'hui, vous venez d'entendre donc le docteur Moudao Slihou, médecin-chef de la commune de Tawa? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes ou est-ce que vous avez utilisé les mêmes méthodes parce qu'on entend parler des difficultés aussi, des réalités, mais aussi des méthodes utilisées pour pouvoir continuer à fonctionner?
Oui, en fait, effectivement, quand vous écoutez ce reportage, en fait, vous comprenez aisément qu'il y avait un problème d'armes au niveau compréhension et sociale.
Un problème de
compréhension sociale ou okay. De la maladie. Donc, et qui n'a pas été très vite prise en charge ou bien qui n'a pas été très bien compris au niveau communautaire. parce que quelque part la population semble stigmatiser cette maladie et que tous les porteurs de cette maladie parce que quelque part donc n'ont pas bien reçu la bonne information à temps.
Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une confusion de signes peut-être de la maladie avec le rhume similaire, je veux dire les mêmes symptômes.
Non, pourtant, en fait, moi, je pense que c'est des pathologies qui se ressemblent plus ou moins à celles qui sont apparentes à celles qu'on a, en fait. Normalement, ça ne devait pas avoir aussi cet effet donc, de stigmatisation, donc, au point où les gens préféraient peut-être donc, rester à la maison, souffrir, que de venir donc, demander des soins. Mais le problème qui s'est posé, je pense que, quelque part, les fake news ont beaucoup joué dans ce mauvais comportement, je dirais, donc, de la population face à cette maladie. Et ça a été vraiment une des grosses difficultés donc, du système de santé qui, en fait, a peiné avant de se redresser. Parce qu'il fallait, en fait, comprendre cet aspect afin de pouvoir donc, le prendre à charge et pouvoir gérer la question. Et c'est dans ce sens que nous, de la même façon que l'avait dit, les mesures restrictives donc de regroupement et autres mesures donc qui imposent donc des protections donc individuelles et ont fait en sorte que nos services ont dû s'adapter et ont dû être résilients par rapport à cette maladie en quoi faisant je dirais que en faisant en sorte que de respecter non seulement leur mission quotidienne qui est de soigner et de soigner quoi que en soit mais aussi de prévenir aussi donc la contamination et la propagation de la maladie par le respect des mesures édictées par la politique du pays. Donc, c'est-à-dire donc, la distanciation d'au moins d'un mètre, le non-regroupement donc, des personnes au niveau d'un seul endroit, et la protection individuelle par les mesures de barrières, le lavage des mains.
Alors, est-ce que ces nouvelles dispositions n'ont pas eu un impact sur peut-être le fait de pouvoir satisfaire le besoin de la clientèle? Non. Les heures de travail qui ont été réduites?
Non, je pense que plutôt, en fait, ça a montré même comment est-ce que notre système est résilient par rapport à toutes les choses qui peuvent arriver en fait, à ce système-là. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un petit attardement donc, de 48 heures, mais je pense qu'après, le système a réagi vite pour pouvoir donc, trouver des solutions afin donc de contourner ces difficultés-là. Ces solutions-là, je disais, c'est quoi? C'est de démultiplier les postes donc, d'offres de services. C'est aussi donc de respecter les distanciations.
Donc, et c'est ce que vous avez fait?
Effectivement, c'est ce que nous avons fait. Moi, je parle au nom donc, de notre arrondissement communal. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé pour que en fait, les prestataires eux-mêmes soient protégés donc, face à la maladie, mais aussi qu'on protège aussi la population par rapport au risque de contamination et en même temps offrir ses services. Mais le grand goulot d'étanglement, en fait, c'est quoi? C'est la communication au niveau communautaire. Et là, il a fallu qu'on engage donc, des discussions avec les responsables donc, de la communauté, donc les leaders, pour que puissent appuyer les services de santé afin d'expliquer la maladie et de faire revenir les gens au niveau donc, des services de santé, afin de continuer à bénéficier des soins qui leur sont offerts.
Alors, est-ce que vous n'avez jamais eu des remarques ou des constats du genre « Ah, nous sommes venus à la consultation, nous avons respecté les dispositions et au dernier moment, c'était notre tour et puis il était l'heure ?»
Si, effectivement. Voilà. Effectivement, pourquoi? Parce que moi, c'était des incompréhensions. Effectivement, pourquoi? Parce que moi, j'ai été saisi par une ou deux clientes ou prestataires donc, ils agissent donc au service de santé, par rapport à une mauvaise compréhension de l'information que lui-même le prestataire avait reçue. Donc, et très rapidement, donc, on a levé la question. J'ai rapidement alerté donc, les responsables donc, du service de santé pour qu'ils puissent corriger donc, ces genres de informations. Je pense que ça arrive hein, dans des cas d'incompréhension parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même lecture donc, de l'information quand il la reçoit. Donc, mais ce qui est important ici, c'est quoi? C'est de pouvoir réagir rapidement afin donc de corriger ces insuffisances.
Alors, je me tourne vers la DOS, la directrice de l'organisation des soins au niveau du ministère de la Santé publique. Quelle est la stratégie qui a été mise en place ou les moyens par le ministère pour pouvoir continuer le service?
Donc, il faut dire que devant le constat de la baisse de la fréquentation des structures de santé, on veut combattre le coronavirus, mais il ne faudrait pas que d'autres maladies émergent en pensant qu'on voudrait se protéger du coronavirus. Donc, on a rapidement fait le constat que les activités préventives étaient au ralenti, et que ce ne sont que les urgences qui étaient prises en charge. Donc, on a rapidement fait le constat que les activités préventives étaient au ralenti, et que ce ne sont que les urgences qui étaient prises en charge. Donc, rapidement, on a fait sortir des instructions au niveau du ministère de la Santé pour d'abord amener toutes les structures sanitaires à mettre d'abord des mesures visant à réorganiser les services. Donc c'est comme le médecin-chef l'a dit, il fallait donc multiplier les centres de prise en charge au niveau des hôpitaux et autres, mettre des centres de tri avancés pour que les malades suspects de coronavirus ne puissent pas entrer en contact avec les autres pour pouvoir les contaminer. Et protéger également le personnel de santé. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, dans les premières semaines où il y avait une méconnaissance, de beaucoup de choses par rapport à la maladie, beaucoup d'agents de santé ont été infectés. Parce que la crainte, ce n'est pas seulement les usagers et autres, mais également, il faut également protéger les agents de santé pour qu'ils puissent être amenés à jouer correctement. Donc, on a rapidement fait le constat que les activités préventives étaient au ralenti, et que ce ne sont que les urgences qui étaient prises en charge. Donc rapidement, on a fait sortir des instructions au niveau du ministère de la Santé pour d'abord amener toutes les structures sanitaires à mettre d'abord des mesures visant à réorganiser les services. Donc c'est comme le médecin-chef l'a dit, il fallait donc multiplier les centres de prise en charge au niveau des hôpitaux et autres, mettre des centres de tri avancés pour que les malades suspects de coronavirus ne puissent pas entrer en contact avec les autres pour pouvoir les contaminer, et protéger également le personnel de santé. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, dans les premières semaines où il y avait une méconnaissance de beaucoup de choses par rapport à la maladie, beaucoup d'agents de santé ont été infectés. Parce que la crainte, ce n'est pas seulement les usagers et autres, mais également, il faut également protéger les agents de santé pour qu'ils puissent être amenés à jouer correctement leur rôle. Vous avez entendu tout à l'heure, une des dames disait qu'ils font recours à l'automédication.
Oui.
Voilà. Et là, c'est vraiment, en tout cas, des conséquences de la mauvaise interprétation de ces instructions que l'on voudrait vraiment éviter au maximum. Puisque en voulant se protéger du coronavirus, on va déclencher
d'autres choses, oui.
on va créer en tout cas d'autres maladies. Donc vraiment, on a fait comprendre à la population qu'ils ne doivent pas arrêter. Surtout les activités préventives. Les activités préventives, la vaccination, le suivi des nourrissons sains, la consultation prénatale.
Oui, on en a parlé, une femme qui a parlé d'épuiser,
tout à fait. Voilà. Ne pas attendre que la maladie soit au stade d'urgence pour venir au niveau de la structure sanitaire.
Alors, Amina Hashimou, donc, du réseau des journalistes, la présidente du réseau des journalistes pour la santé, vous avez eu vent, entre autres, ces mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé.
Et en réalité, je ne peux pas ne pas dire que je ne suis pas au courant de ces mesures.
Ça,
en
d'accord.
Tant que journaliste. Deuxièmement, mais malheureusement, là où ils ont failli. Moi, je me suis dit que la communication, c'est un art.
Oui.
Pour communiquer, il faut être spécialiste de la communication. J'ai entendu parler tout de suite d'un comité intersectoriel. Le comité intersectoriel, ce ne sont pas des communicateurs. Il y a des personnes qui sont là pour communiquer, quelle qu'en soit la situation. Un bon communicateur, s'il y a une situation qui est là, si vraiment c'est son rôle, il va inverser la tendance, quelle qu'en soit la situation. Si elle est positive, on veut qu'elle soit négative, elle le sera avec le bon communicateur. Si elle est négative, vous voulez qu'elle soit positive, elle le sera avec le bon communicateur. Parce que c'est ça le rôle d'un communicateur.
Alors, Madame Sourguia Mariama, donc, elle est obligée de répondre.
Non, j'arrive.
Vous êtes d'accord avec la remarque? Vous prenez note?
Oui, je sais, mais
est-ce pas des polémiques? Juste pour dire que vraiment, le comité qui s'occupe de la communication...
Je vous en prie, vous m'avez coupé la parole. Je vais d'oublier mes idées.
Okay. Allez-y. Amina Hashimou.
Ça, c'est ce que je voulais vous faire comprendre.
Notifier.
Je suis d'accord, c'est ce que je voulais notifier.
Oui, d'accord.
Je suis d'accord, mais les comités sont là. Oui. Je suis d'accord. Mais les journalistes ne doivent pas être en marche.
Ah, vous êtes en train de dire que les journalistes doivent impliquer.
Normalement, on doit mettre en place un comité spécial des journalistes.
Bon, d'accord. C'est peut-être une observation.
Vous avez compris.
Mais aller jusqu'à dire que les membres de la commission ne sont pas des communicateurs.
On a compris la nuance alors.
Voilà.
On a compris la nuance. Oui,
parce que nous avons. Ce n'est pas seulement les journalistes qui sont des communicateurs.
Ouais, et là voilà. c'est Mariama, donc la Madame Souria Mariama qui répond.
D'accord, j'arrive, Madame. Oui. Donc, un comité de journalistes qui est là, il n'attend que ce que vous avez fait en tant que comité. Vous leur transmettez les informations. Et eux, comment est-ce qu'ils vont faire pour convaincre la population sur tel ou tel aspect?
Alors, c'est une suggestion.
Un. Deuxièmement.
Oui, on peut aller à...
Les réseaux sociaux là que vous incriminez, mais à travers les réseaux sociaux, c'est sûr que les journalistes vous ont sauvé. Ils vous ont sauvé. Moi personnellement, je reçois des informations
que vous vérifiez, c'est ça?
Moi, même si je vérifie pas, on a un groupe de journalistes auquel je balance vérifier cette information. Mm-hmm. Il ne faut pas que ça soit divulgué. Si c'est faux, il faut l'arrêter.
La dernière question de cette émission, c'est la dernière partie. Comment amener les femmes?
On a joué un rôle important.
Important.
Je ne suis pas obligée. D'accord. Laisse-moi finir.
Bon, 30 secondes.
Il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, les réseaux sociaux là. Mais ce sont les intellectuels qui utilisent les réseaux sociaux. Les victimes, ce sont nos pauvres sœurs, frères qui n'ont même pas de téléphone.
Alors d'accord. Donc vous comment amener les femmes et la population à se débarrasser de leurs craintes et appréhensions? Je suis obligée de continuer. Faut-il en même temps doter les CSI des moyens supplémentaires, d'accord, pour continuer le fonctionnement? On a bien entendu ce que vous avez dit. Mm-hmm. Ah, vous étiez deux contre... Ah non, c'était juste une parenthèse. On a bien entendu, on est tous ensemble. On a bien entendu, mais est-ce qu'il y a des moyens supplémentaires pour le fonctionnement, pour le fonctionnement des CSI, hein, dans cette situation de Covid? Docteur Abou Abdourahmane, donc du directeur sanitaire.
Oui, justement, c'est ce que j'aurais aimé aborder. En
alors,
fait,
on a 50 secondes, 50 secondes chacun.
Un peu plus, hein, parce que c'est
d'accord.
Une grosse partie.
Allons-y.
Je pense que c'était dans ce sens-là que, toujours dans le cadre du réajustement de ces activités-là, non seulement les horaires, nous, le système de santé n'a jamais eu, bon, en dehors des activités qui sont administratives, donc des erreurs qui suivent carrément sur la fonction de studio, donc le système de garde astreinte, donc le garde...
Ça veut dire que vous êtes en train de proposer des choses qui n'existent pas, c'est ça?
Non, quel qu'en soit, déjà, les services de santé sont toujours là, quel qu'en soit la situation, quel qu'en soit le moment, il y a toujours quelqu'un qui va répondre aux besoins de santé de quelqu'un de la population. Mm-hmm. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, par rapport aux autres activités, en fait, maintenant, c'est sous le renforcement des activités qui sont en avancée, c'est-à-dire que maintenant, les services de santé même essaient de sortir, par exemple, pour la vaccination. Donc,
docteur, voilà ce que je veux. Oui. Je veux une proposition supplémentaire. Ça veut dire ce qui n'est pas fait déjà, mais qui pourrait améliorer le fonctionnement des centres de santé dans cette situation du Covid-19.
Ben, ça, en fait, c'est, par rapport à cela, c'est de clarifier carrément donc, le volet communicationnel en fait, avec, voilà, au niveau, voilà, communautaire. C'est tout, parce que ce n'est pas une activité qui n'est pas faite, parce que c'est des paquets en fait, qui sont déjà existants au niveau donc, des structures de santé. Il faut le dynamiser. Parce que sans l'appui de la communauté, en fait, sans que son appui de soi là, donc ce serait difficile que même la population puisse sortir et comprendre aisément donc, comment il faut arriver, qu'est-ce qu'il faut faire par-ci et qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour.
Alors c'est ça, donc, que vous avez vraiment... dit, clarifier le volet communication.
Et déjà, Dieu merci, en fait, beaucoup de partenaires sociaux, donc je dirais, donc des ONG sont déjà manifestés en fait, pour pouvoir travailler dans ce sens-là.
D'accord.
En fait, appuyer le ministère de la Santé, le volet donc, renforcement donc, des communications au niveau donc, de la communauté. Okay. Je pense que c'est déjà des choses qui sont innovantes.
Alors, ça c'est bien, c'est déjà un, oui. Alors, Madame Sourguia Mariama, donc...
Comme ça, moi, je veux continuer.
Voilà, le ministre de la Santé publique, la directrice de l'Organisation des soins publics, quelque chose à ajouter en plus.
Tout à fait, mais c'est... Voilà, mais malheureusement, quand vous intervenez... Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Il faut pas attendre.
Bon, d'accord.
Il faut pas attendre le studio que la... Je suis
obligée, voilà, de faire l'arbitre. Non, c'est une suggestion.
Non, vous n'avez rien dit de mal.
C'était une suggestion.
Il fallait sortir. En tout cas, bon, toutes les associations et autres regroupements.
Le studio Kalangou aussi.
Je sais. J'ai dit toutes les associations et autres regroupements en tout cas de bonne volonté, se sont manifestés.
D'accord.
Ils sont sortis pour apporter leur appui au ministère de la
Maintenant,
Santé.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut de plus, en plus de tout ce que vous avez fait là, avec tout ce que vous venez d'entendre, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut ajouter pour le bon fonctionnement.
L'a dit, je pense que pour améliorer le fonctionnement, la fréquentation des services, il faut une bonne communication avec les communautés. Et les structures de santé ont déjà un système par lequel ce volet peut être très bien développé. Ce sont les relais communautaires.
D'accord.
Ils sont là ils sont donc l'interface des structures de santé dans la communauté. Et nous pensons qu'à travers ces relais, on peut faire en tout cas beaucoup de choses.
Alors,
ils peuvent très bien nous aider pour juguler cette crise.
Alors donc, c'est la même proposition. Alors donc, Amina Hashimou, donc là, il faut vraiment nous faire une autre suggestion, mais ça, c'est pour améliorer le fonctionnement.
Pour améliorer le fonctionnement, c'est toujours la même proposition. C'est la communication.
Tout d'accord.
On est unanime, c'est la communication. Et surtout, madame, par rapport aux points de presse, les points de presse en français, vous n'informez personne. Essayez de les faire en langue nationale.
Voilà.
Parce que la grande majorité des personnes qui sont concernées, ce ne sont pas des
intellectuels. Communiquer en langue, c'est là où nous allons nous arrêter. Ouais. Voilà, chers invités, en faveur donc de la pandémie, on a constaté qu'il y a eu baisse des fréquentations des centres de santé, en général par la population, mais aussi plus par les femmes. Ça, c'est nos invités qui l'ont dit, ils sont là. Il n'y a pas assez de sensibilisation sur les dispositions, les nouvelles dispositions qui ont été prises pour donc améliorer le fonctionnement des centres de santé. Ce constat a été fait parce qu'un plan de communication aussi a été bien élaboré, selon Madame Sourghia Mariama. Alors, mais une communication qui s'est heurtée aux fake news qui sont à la base des craintes de la population, selon Dr Abou Abdourahmane, donc du groupe sanitaire Niamey 3, multiplier les sites de prise en charge, protéger les personnels de centres de santé sont entre autres des mesures qui ont été prises pour continuer à satisfaire la population. Et enfin, comment faire pour continuer à faire fonctionner ces centres de santé, appuyer au niveau communautaire, le volet communication. C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie, je vous rappelle, de Madame Sourghia Mariama, directrice de l'organisation des soins au ministère de la Santé publique, Amina Hashimou, présidente du réseau des journalistes pour la santé, Dr Abou Abdourahmane, médecin-chef district sanitaire Niamey 3. Merci à tous d'être venus au Studio Kalangou. Merci aux auditeurs du Studio Kalangou de préférer les programmes de Studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à partir de 17h sur nos 41 radios partenaires. Envoyez-nous vos témoignages et vos propositions en message vocal par WhatsApp au 80 06 88 54. Pour ma part, cela a été un réel plaisir d'avoir partagé ce temps d'antenne avec vous. Moi, c'est Diallo Mariama Kenda pour vous servir. À la partie technique, Issa Lawali et Ayouba Mustapha. Et nous allons écouter donc la partie l'outil de cette émission. Et voilà. Et puis c'est une partie de distraction où on informe, où les femmes informent, mais en utilisant un humour.
Affairage.
Quelle odeur! Et toutes ces mouches! Hé, hey, Nafi, c'est ça ton quartier?
Hamsou, tu vois, non? C'est dans ça qu'on est depuis que j'habite ce quartier, depuis 6 ans.
Hé, hey, Ikon Allah! Mais est-ce qu'une fois tu as parlé avec tes voisins, histoire de les sensibiliser?
Regarde-toi avec ta morale. Ne viens pas me créer des problèmes d'air.
Hé, hé, madame, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez nous salir ou quoi?
C'est pour toi la route là ou quoi? Regardez-moi ça!
Hé, hey, madame, attention, Fa. La route là, c'est pour nous tous. En l'occurrence, c'est un bien public et vous contribuez à la dégrader. Le saviez-vous?
Hey, stop, Ousourou. Arrêtez-moi ce vacarme. En plus, voisine, tu ne vois pas comment c'est vilain à voir? Pas étonnant que vos enfants soient toujours malades. Toutes ces eaux usées attirent les moustiques. Et résultat, le palu est au rendez-vous. Vous êtes toujours à l'hôpital.
C'est donc ça la cause de l'état de santé de mes enfants?
Bien sûr. Je n'ai jamais voulu t'en parler de peur de provoquer des tensions entre nous. Donc, voisine, agara. dans Allah.
En plus, ce que ta voisine ne sait pas, Nafi, c'est qu'il y a un arrêté de la ville de Niamey qui date de septembre 2017. Cet arrêté dit clairement qu'il est interdit de verser de l'eau usée sur place et sur les voies publiques. Tout contrevenant s'expose aux rigueurs de la loi prévue par les codes d'hygiène et d'assainissement de la République du Niger.
Quoi ?
Eh oui, c'est pas tout. On peut te dénoncer aux autorités de la ville de Niamey. Il suffit que la personne appelle le 4334. Donc fais gaffe. Et la police municipale ou les gardes sanitaires peuvent te prendre.
Mais c'est qui ces gens-là ?
Ce sont eux qui s'occupent de ça. Ils circulent dans les quartiers de temps en temps pour vérifier les devantures des portails et les rues aussi.
Icon Allah, vraiment, j'ai échappé belle. Voisine, merci de ne m'avoir pas dénoncée. À partir d'aujourd'hui, je ne verserai plus de l'eau usée et le reste de nourriture dans l'eau.
Tu sais, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de garder nos quartiers propres. Et cela commence par la devanture de nos maisons.
En tout cas, la charité bien ordonnée commence par soi-même. À bon entendeur, salut!
Affairage, 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 affairage.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.
Espace femme.